Présenté au musée dauphinois depuis octobre 2010 et jusqu'en janvier 2012, l'exposition « Ce que nous devons à l'Afrique » est un condensé, on pourrait dire, de cette histoire particulière qui noue l'Occident avec ce grand continent. On part évidemment des origines des peuples africains et on va jusqu'à aujourd'hui, de nos temps, à travers un cheminement qui se fait dans les salles du musée dauphinois. On va continuer dans l'histoire, on va faire des grands sauts, des grands bonds. On arrive effectivement aux premières guerres, la première guerre mondiale et la seconde, en passant effectivement par l'appropriation entière et totale du continent, je dirais, après que finalement ce soit les littoraux qui ont été conquis dans les premiers temps, tout au long des 15, 16, 17e siècle, on arrive petit à petit vers l'intérieur des terres où on trouve évidemment des richesses plus grandes encore. Et là s'implantent des empires qui vont être tout à fait stabilisés jusqu'à la seconde guerre mondiale environ et jusqu'aux premières indépendances des années 60, n'est-ce pas? C'est une démarche aussi, sous cette grande drapeau de la civilisation et aussi de la pacification des peuples. En fait, on vient ici exploiter les richesses des sols et du sous-sol également, n'est-ce pas?
C'est très clair. Dès que s'amorce la conquête de l'ensemble du continent africain, conquête territoriale au 19e siècle, avec notamment le voyage d'un personnage qui s'appelle Mungo Park, qui, pour la Société africaine de Londres, vient observer les possibilités commerciales qu'offre le fleuve Niger à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. Des voyageurs européens, il y en aura bien d'autres, pour mesurer comment l'on peut exploiter les richesses de ce continent. Et parallèlement, effectivement, s'opère une conquête territoriale en règle de tout le continent africain qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, est entièrement conquis, à l'exception de deux territoires qui sont le Libéria et l'Empire d'Éthiopie, qui sera menacé, occupé pendant un temps par l'Italie mussolinienne. Partage en règle qui est réalisé au moment de la conférence de Berlin, où l'on sent que l'occupation du Congo par Léopold II de Belgique peut conduire à un conflit entre les puissances européennes qui se réunissent autour d'une table et qui, comme le montre cette caricature de l'époque, coupe le gâteau Afrique pour chacun des participants, et la France prend une importante part de ce continent avec toute partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, ainsi que de l'Afrique centrale, sans oublier Madagascar.
Absolument. Donc le temps passe, on s'aperçoit effectivement que non seulement on utilise les matières premières, mais aussi les bras de ces populations-là, les hommes notamment, qui sont enrôlés dans divers bataillons de divers empires coloniaux, qu'ils soient anglais, français ou que sais-je, avec la force noire du général Mangin, qui servira sous le drapeau dans la Marne, se faire casser la figure dans l'eau bouillouse et dans le froid, n'est-ce pas? Que ces mêmes indigènes, comme on disait à l'époque, seront aussi utilisés, encore une fois, sur le front, sur tous les fronts du monde, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que, évidemment, il reste une rancœur, effectivement, de ces peuples dits colonisés, même si, après, effectivement, au début des années 60, encore une fois, on fait des pas en avant, on est bon en avant, mais effectivement, les indépendances arrivent, alors bon an, mal an, plus ou moins dans la douleur, que ce soit l'Algérie à travers une guerre ou d'autres beaucoup plus pacifiquement, notamment toute l'Afrique en général, ça s'est plutôt bien passé. Mais on s'aperçoit quand même que même si cette décolonisation a lieu de manière, conventionnelle, sur le papier, les liens économiques sont très étroits pour le moins.
Les liens économiques, politiques sont très étroits, on le sait, depuis les indépendances, que ce soit l'Afrique avec ses anciens territoires colonisés, que ce soit d'autres puissances. Seulement, ces liens ne sont pas dits explicitement aujourd'hui. C'est là bien tout le problème. Et puis, par ailleurs, on peut se demander si il y a eu véritablement une décolonisation des mentalités. Voilà tout un problème que nous souhaitions aussi poser par rapport à ça et qui justifie la présentation même de cette exposition ici sur le regard que nous portons sur ce continent dont on connaît finalement assez mal l'histoire, que nous voulions résumer succinctement dans cette première partie.
Absolument. Donc effectivement, après, on va se déplacer vers une autre pièce qui sera cet espace-là très reposant où effectivement, on rend hommage aussi à cette culture, à l'ethnologue Jean Rouge, notamment toute cette symbolique que portent tous les peuples du monde et notamment ceux d'Afrique avec leurs mœurs, tout simplement, leur sens du beau, leur sens du partage, la musique, les arts, bref, des civilisations pleines et entières, je dirais.
Voilà, première partie, effectivement, dans cette deuxième salle que nous voulions dédier d'une certaine façon à l'ethnologue Jean Rouge, qui a été l'un de ceux qui ont contribué, nous le pensons, à sortir l'ethnologie de l'ère coloniale, de ce regard condescendant porté sur l'Afrique et ses cultures, et sur d'autres continents, par l'Europe, de pouvoir muséographier différemment les objets africains, de pouvoir rappeler quel est leur usage premier, de ne pas oublier quelle est leur utilité sociétale. C'est ce que nous voulions faire ici, à travers notamment la présentation de ces masques issus des collections du musée de Grenoble, que nous avons mis en regard de l'un des films où l'on voit Jean Rouge apparaître. Et là, j'invite toutes les personnes qui n'auraient pas vu cette exposition à apprécier les films de Jean Rouge, qui sont des trésors d'archives aujourd'hui, qui ont été réalisés dans les années 50-60 et qui montrent une Afrique telle qu'on ne la voit malheureusement quasiment plus aujourd'hui, à travers ces cultures traditionnelles que l'on a voulu rappeler ici.
Alors on continue effectivement avec, donc il y a des masques évidemment, avec ce qui est bien c'est que vous présentez ces attributs qui sont jolis mais qui ne sont pas seulement jolis, qui sont aussi inclus, insérés dans une pratique quotidienne d'une vie en communauté selon des rites et des rythmes aussi de vie qui correspondent à des populations précises, des ethnies, n'est-ce pas? Donc c'est bien aussi le travail que vous articulez là, c'est de redonner du sens un petit peu à tous ces objets qui ne sont pas seulement beaux mais qui ont une utilité sociale, philosophique même parfois, qui transcendent un petit peu justement l'homme, pour ne pas le réduire à fabricant d'objets jolis, mais bel et bien qui s'appuie vers une spiritualité, quelle qu'elle soit.
Absolument. Ces masques et ces coiffes que vous pouvez voir dans cette partie sont des masques qui sont présentés à l'occasion d'un festival dit des ethnies minoritaires dans la partie orientale du Sénégal, où l'on peut apprécier des danses et des musiques des ethnies Konyagi, Bassari, Bédik, Dialonké, et auxquelles les Peuls participent, qui ne sont pas une ethnie minoritaire de l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt une ethnie très importante démographiquement. Ce festival, nous l'avons évoqué dans cette partie pour expliquer l'une des opérations que le Conseil général de l'Isère a pu conduire au Sénégal avec les collectivités locales, avec les ethnies concernées qui aujourd'hui ont pris le relais et organisent eux-mêmes cette manifestation qui a permis de les réunir. Il s'agit d'ethnies, pour certaines, qui ne comptent que quelques milliers de personnes, donc des cultures qui sont aujourd'hui menacées, donc qui peuvent être comme ça montrées et préservées dans un cadre comme celui-ci.
On continue également avec une exposition photographique, toujours dans ce même lieu, consacré justement aux cultures de ces peuples. Donc là, on est sur un peuple nomade, un peuple pastoral qui élève donc des troupeaux, qui a une particularité, c'est qu'ils ont vécu assez à l'écart finalement du monde un peu abrupt de l'Occident, qui n'a pas été envahi, qui a resté comme ça dans ses traditions, dans ses mœurs de vie. Et on voit justement de très très belles photos réalisées par Hans Sylvester qui a photographié des individus, hommes, femmes, enfants, paysages, enfin toujours des paysages derrière, mais toujours l'homme en premier plan dans son environnement premier, avec un choix esthétique particulier de montrer que effectivement on peut vivre très bien pendant des siècles sans être en contact de l'Occident.
Absolument. Nous étions convaincus de l'intérêt de pouvoir montrer ces photographies à plus d'un titre au musée dauphinois, ces photographies d'Hans Sylvester. parce que ces populations de la vallée de Nomo prennent sens ici, d'une part parce que il est toujours intéressant au musée dauphinois de pouvoir montrer les modes de vie de sociétés pastorales, dans un lieu qui s'est beaucoup intéressé au pastoralisme alpin et d'autres régions, et puis d'autre part parce que cette notion du beau prend tout son sens ici, avec des peintures corporelles absolument superbes, pas une ne se ressemble, et pour nous, peuvent bien être comparés avec les plus beaux chefs-d'œuvre de l'art moderne de l'Occident. Et puis par ailleurs, parce que ces photographies sont prises dans une région de la vallée de Nomo, comme vous le disiez, qui a été très préservée de la colonisation, très préservée de notre monde moderne, mondialisé, et qui finalement ont un mode de vie très traditionnel, et ne semble qu'elles vivent dans une grande osmose avec l'environnement qui les entoure, et voilà, tout simplement par la beauté qu'elles expriment.
Absolument. Alors on va conclure cette interview et cette exposition avec la dernière pièce. Encore une fois, ces photos sont magnifiques, hein. Il y a vraiment des situations très belles avec des gens, des enfants, tous avec des coiffes, des parures végétales, bref, un peuple très 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 beau. Et là, on arrive sur la conclusion de l'exposition, où là, on est dans cette Afrique contemporaine, très très immédiate, je dirais, avec ces réalités qu'il ne faut pas contourner non plus, qui s'appellent misère, qui s'appellent exploitation, qui s'appellent guerre civile, qui s'appellent déforestation, qui s'appellent famine, sous-développement. C'est aussi une facette de l'Afrique, malheureusement, on pourrait dire, malgré la présence, ou fort de cette présence, peut-être il y a une corrélation directe, de l'Occident dans ce continent noir. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, il y a quand même un gros souci vis-à-vis de ce continent. C'est important aussi de dire que bah voilà, il y a quand même un problème vis-à-vis de ce continent-là qui regorge de richesses et qui finalement est pauvre de ces richesses-là.
Oui. Et les acteurs associatifs qui ont participé à ce projet ont beaucoup insisté pour que nous traitions de cette actualité. Donc nous l'avons fait ici succinctement, bien sûr, dans un espace d'exposition. Mais rappelez, comme effectivement vous le soulignez, que cette Afrique est riche de ressources naturelles et que ces ressources naturelles ont été la cause aussi de beaucoup de conflits, comme on le voit à travers cette carte qui montre combien de conflits ont eu lieu durant une décennie qui va... Deux décennies qui vont de 1990 à 2010, avec des conflits qui ont fait parfois plus d'un million de victimes, et que parallèlement à cette carte, on pourrait regarder celle de l'indice du développement humain qui montre que c'est en Afrique que cet indice de développement humain, qui est un indice on ne peut plus sérieux établi par les Nations Unies par rapport à des critères tels que le niveau d'éducation, le niveau de vie, la santé, eh bien cet indice de développement humain est le plus faible en Afrique, avec des pays dont l'espérance de vie est d'à peine 40 ans aujourd'hui, donc une situation extrêmement sombre après 50 ans d'indépendance aujourd'hui, indépendance relative, on l'a expliqué tout à l'heure, avec le phénomène de la dette qui a été contractée par ces pays africains au lendemain des indépendances, et avec des taux d'intérêt absolument insupportables aujourd'hui, qu'elles ne peuvent pas rembourser les crédits qui ont été contractés.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins de Sirvin, les crédits des débits.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Il y a néanmoins des espérances, heureusement, que nous avons voulu souligner ici, qui émanent de la société civile, des forums sociaux mondiaux, qui sont de grandes manifestations, qui permettent de montrer qu'il y a peut-être d'autres alternatives à la mondialisation que nous connaissons actuellement, avec deux forums qui se sont tenus en Afrique, celui de Nairobi et plus récemment celui de Dakar, et qu'il y a aussi des organisations plus locales, les tontines notamment des femmes sénégalaises, ou d'autres associations qui luttent pour les besoins primaires de ces populations dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, pour empêcher notamment les jeunes de quitter le Sénégal en particulier. On sait que beaucoup d'entre eux périssent en mer à vouloir gagner les côtes européennes dans l'espoir d'une vie meilleure et que malheureusement l'issue est souvent très dramatique.
Et puis là, vous rendez aussi un hommage, on pourrait dire, aux associations, aux militants qui, au long cours, à l'année, alors en Isère comme ailleurs, effectivement, travaillent pour créer des liens d'amitié, des liens de soutien, de solidarité, de respect aussi, d'histoire, bref, de remettre un petit peu les choses à l'heure, en place, qui est qui fait quoi, comment, et comment ensemble peut-on faire aussi évoluer et les mentalités, mais aussi les actions en commun vers l'Afrique et de l'Afrique aussi vers l'Isère.
C'est à l'image de ce projet, hein, de présenter les portraits de quelques responsables associatifs locaux qui ont des relations avec l'Afrique. Quelques-uns de ceux qui nous ont particulièrement aidés dans ce projet, engagés dans différents champs liés, on pourrait le dire, aux droits de l'homme, et qui ont été source d'inspiration pour nous par leur expertise, par leur connaissance du continent africain. Donc c'est vraiment un projet construit collectivement par le musée dauphinois avec nombreux de ses acteurs, à qui nous voulions là donner un temps de parole à travers ces quelques panneaux.
Très bien. Alors aussi l'Afrique contemporaine, c'est pas seulement la guerre, la misère, mais également la création. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de créateurs contemporains, avec tout ce que ça a aussi de farfelu parfois, de recherche artistique, parfois un peu imperméable. En tout cas, c'est ça, l'art contemporain, on le comprend, on le comprend pas. Mais en tout cas, c'est une démarche moderne, indéniablement. Et notamment, il y a de nombreux artistes africains qui travaillent aussi, alors en Afrique ou en Occident, mais en tout cas qui s'imprègnent du passé pour faire une projection dans le futur et même dans un futur un peu lointain parfois. Notamment cet artiste que vous avez invité à participer, à conclure cette exposition pour montrer qu'aussi, bien, il y a cette créativité, il y a cette envie et cette modernité aussi en Afrique.
Oui, c'est l'histoire d'une rencontre avec un artiste contemporain africain d'origine congolaise de la RDC, Morija Kitenge-Banza, qui a été lauréat de la Biennale de Dakar d'art contemporain, qui n'est donc pas un inconnu et dont le travail nous a beaucoup touchés parce qu'il est... Il permet d'exprimer cette relation à l'histoire du continent africain qui nous est commune avec cette œuvre. L'on voit ce mur de cuillère qui symbolise ces corps entassés sur les navires négriers à l'époque de la traite. Et chacune de ces cuillères, eh bien, cet artiste l'a obtenue par le biais de comptoirs comme il en existait au temps des colonies. Tout ça non pas dans un but lucratif, bien évidemment, mais dans un but d'expliquer sa démarche, d'expliquer pour lui, en tant qu'Africain d'origine, vivant aujourd'hui en France, la pertinence de faire connaître cette histoire de l'Afrique et de l'esclavage en particulier. Et puis on a une autre œuvre là, où on le voit chanter dans le plus simple appareil, un hymne qu'il a intitulé « Hymne à nous », qui est composé de trois hymnes, l'hymne congolais, parce qu'il est donc originaire du Congo, de la RDC, l'hymne belge parce que ce Congo a été colonisé autrefois par la Belgique, et l'hymne français parce qu'il vit donc depuis quelques années à Nantes en France, qui, nous l'avons rappelé, a été l'un des hauts lieux du commerce triangulaire de la traite négrière occidentale. Dans l'idée qu'il est façonné, lui, de toutes ses identités et entendre bien qu'on l'accepte comme tel.
Absolument, c'est bien aussi le propos d'une telle exposition aujourd'hui, Olivier Cohn, c'est aussi rappeler alors aux habitants de l'Isère, à ceux qui passent par là, que effectivement cette Afrique, elle est lointaine, mais elle est très proche finalement, car nos richesses dépendent beaucoup aussi de ce continent par le passé, mais aussi dans ce présent que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est un moyen d'ouvrir un peu les yeux sur une réalité méconnue et de dire que par la meilleure compréhension des cheminements historiques, sinon conjoints, au moins parallèles, on arrivera peut-être à créer quelque chose et une vision différente que les clichés un petit peu récurrents qui tournent autour de ce continent noir?
Nous espérons effectivement, modestement, par un tel travail, que certains présupposés pourront évoluer, notamment par cette évocation de l'histoire, des richesses culturelles du continent africain, de ce qu'est cette actualité. Nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de ce projet avec l'Afrique, avec un certain nombre d'universitaires africains qui n'ont pas forcément la possibilité d'exprimer leurs travaux ici en France, donc c'était pour nous très important. Et ils pouvaient contribuer à changer ce regard ici même sur ce continent africain.
Très bien, merci à vous Olivier Cogne, merci à tous les contributeurs, ils sont nombreux, qui ont participé à l'élaboration de ce grand projet qui finalement brosse un tableau assez exhaustif de ce continent noir, ce qu'il fut, ce qu'il est aujourd'hui, et on espère ce qu'il sera demain, une unité peut-être plus forte avec les pays d'Occident, aussi une manière moins condescendante de considérer ce grand continent et surtout ces populations, ce milliard d'hommes et de femmes et d'enfants qui y vivent. Merci à vous, je rappelle que l'exposition a lieu jusqu'au 9 janvier. Janvier 2012 et c'est au musée Dauphinois à Grenoble. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Discours du président de la République française à Dakar le 26 juillet 2007.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.